verset 20. Donc on connaît ce verset 1. En effet, j'ai été crucifié avec le Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ma vie en tant qu'homme, je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu, qui par amour pour moi s'est livré à la mort à ma place. Alors en anglais et en hébreu, la traduction anglaise est plus cohérente, ça dit « Ma vie en tant qu'homme, je la vis maintenant dans la foi du Fils de l'homme ». C'est-à-dire que parfois on a l'impression qu'on a, notre foi n'est pas assez forte, notre foi est trop faible, on ne sait pas par où commencer, on ne sait pas si on va arriver à croire les promesses de Dieu pour notre vie. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus a eu la foi pour vous. Et toute la seule foi que vous devez avoir, c'est avoir la foi en Jésus, dans le Christ. La foi du Christ est suffisante. Et c'est dans la foi du Christ que je vais arriver à ma maturité en tant que chrétien. C'est dans la foi du Christ, pas forcément dans la mienne. Si la mienne est trop faible, si la mienne est presque inexistante, non, je dis oui, mais j'ai la foi dans ce qu'a fait le Christ, j'ai la foi dans ce qu'a fait Jésus, j'ai la foi dans la foi de Jésus. On comprend l'idée. Donc c'est la foi du Christ, de Dieu. Et si la foi est le langage de Dieu, la peur, c'est le langage du monde. C'est-à-dire que ce qui s'oppose à la foi, c'est la peur. Et on peut pas avancer dans la peur et avancer dans la foi en même temps. C'est soit l'un, soit l'autre. D'accord ? Et la peur fonctionne exactement comme la foi. C'est-à-dire que quand j'ai peur, je vais imaginer le pire scénario de ce qui va arriver. Ah tiens, mes enfants, par exemple, ma mère, elle nous a vu jeudi partir pour Marseille en voiture. Et juste avant ça, je ne sais plus, on parlait le mercredi soir, on parlait des accidents de voiture, de personnes qui avaient eu des accidents de voiture, etc. Je me suis dit, c'est sympa, pour demain on fait 3-4 heures de route. Là. donc on aurait pu choisir d'être dans la peur. Okay, et on aurait pu imaginer le pire scénario. On aurait dû se dire, on va finir dans un accident, ça va mal se passer. Et donc, activer notre imagination dans ce sens-là. D'accord ? Imaginez l'accident, imaginez la situation, la pire des situations. Et la foi, au contraire, fonctionne de la même manière. Non, la foi, c'est imaginer le meilleur. Et c'est faire travailler aussi votre imagination dans le bon sens. Et ça, c'est puissant, les amis, mais c'est quelque chose qui n'est pas forcément naturel. Naturellement, on va plutôt vers l'inquiétude, vers une certaine peur du lendemain. Mais si on garde les yeux fixés sur Jésus, on va réussir à aller de l'avant et à être positif. Et notre imagination va commencer automatiquement à imaginer les scénarios les meilleurs. D'accord ? Et c'est primordial en tant que chrétien. Parce que si on a peur, la foi n'est pas là. D'accord ? On va voir, tout le monde sait, je pense, comment bannir la peur de notre vie. La Bible est claire, c'est l'amour qui bannit la crainte. On lit ça dans 1 Jean 4, 18. Donc, l'amour bannit la crainte. J'ai un exemple. On était dans un voyage missionnaire en Californie avec mon équipe de Charis Bible College. Et j'étais invité donc à prêcher un dimanche matin dans une église là-bas. Et mon message était sur l'amour de Dieu, à quel point Dieu nous aime, que son amour est sans condition et son amour est libérateur. Donc c'était centré sur ça, sur l'amour de Dieu. Et à la fin du culte, j'ai demandé aux gens de s'avancer, les gens qui avaient peu importe quel besoin, parce que l'amour de Dieu n'est pas limité. Et donc, peu importe quel besoin, les gens sont venus pour la prière. Il y a notamment une petite dame qui s'est avancée, elle s'appelait Minnie. Et elle avance comme ça, un peu en boitant et tout ça. Donc forcément, je me dis, elle vient demander la prière pour sa jambe, parce qu'elle boite un peu. Et non. Et elle me demande, elle dit, j'ai perdu mon travail, peut-être que je vais être viré de mon appartement et tout ça. Donc, je lui rappelle encore à quel point Dieu l'aime. Et je prie pour que cet amour soit vraiment, on prie avec d'autres, pour que cet amour soit manifesté dans sa vie. Et sans même prier pour sa jambe, tout d'un coup, elle dit, oh, j'ai senti quelque chose s'est passé dans ma jambe, j'ai senti une chaleur, et j'ai plus mal. Et elle levait sa jambe comme ça, et elle sautait. Et à la fin, elle a dit, je ne vous oublierai jamais. En sortant de ce culte, j'ai l'impression d'avoir 15 ans. Et elle était une dame d'un âge honorable, 70 ans, je ne sais pas, 60 et quelques, 70. Et donc, en se concentrant sur l'amour de Dieu, en lui rappelant à quel point Dieu l'aime, quand elle s'est concentrée sur cet amour, Dieu a pu toucher sa vie. Dieu a pu répondre à ses besoins. Vous savez ce que c'est un miracle ? Un miracle, c'est l'amour de Dieu qui répond aux besoins de l'homme. Et c'est quand on se concentre sur cet amour, c'est-à-dire quand on bannit la peur de notre vie, quand on bannit la peur de notre quotidien, quand on bannit la peur de nos pensées, de notre imagination, c'est là que les miracles vont prendre place, quand on avance par la foi. Parce qu'on ne peut vivre, un chrétien ne peut vivre que par la foi. Sinon on est frustré et on va encore une fois remettre en question la nature de Dieu. Quelle est la nature de Dieu ? On va voir que si on doute de cet amour, comme l'amour c'est le seul ingrédient pour bannir la crainte, si on doute de cet amour, si on dit bah franchement je suis pas sûr que tu m'aimes Dieu, et bah la peur va envahir notre vie et va nous remplir de confusion et va nous rendre incapables d'être les ministères de la réconciliation que Dieu nous a appelés à être. Donc on va aller dans Marc 4, 38 à 40. Donc il est dit, donc Jésus à l'arrière dormait, la tête sur un coussin. Donc au beau milieu d'une tempête, ce Jésus qui sait à quel point son Père l'aime pouvait dormir. Il était en confiance, d'accord ? Les disciples le réveillèrent et lui crièrent, « Maître, nous sommes perdus et tu ne t'en soucies pas ?» Donc en disant ça, « Maître, nous sommes perdus, mais tu ne t'en soucies pas. » Qu'est-ce que les disciples remettent en question ? C'est l'amour du Christ. C'est on va mourir et tu t'en fiches ? C'est-à-dire, tu es où ? Enfin, tu ne nous aimes pas, tu es en train de dormir. Et on voit, ils ont remis en question l'amour que Jésus leur portait. C'est la première chose qu'ils ont fait. Maître, nous sommes en train de mourir et tu ne t'en soucies pas. Vraiment une mauvaise image de qui était Jésus. Et si on a cette mauvaise image, si on ne sait pas qui est Jésus, notre vie va aussi être remplie de peur. Vous savez, le Jésus que vous allez pouvoir présenter au monde, le Jésus que vous allez pouvoir présenter à ceux qui vous entourent, c'est le Jésus que vous connaissez, pas un autre. Pas un autre. Il se réveilla, parla sévèrement au vent et ordonna au lac, « Silence, tais-toi ». Le vent tomba et il se fit un grand calme. Donc là, un petit encouragement que Jésus, aujourd'hui, on a l'autorité du Christ en nous. C'est-à-dire que quand une tempête arrive dans votre vie, quand les doutes, quand la peur arrive dans votre vie ou quand ceux qui vous entourent ont peur, vous pouvez parler ainsi à vos circonstances. Silence, tais-toi, parce que le Christ a tout accompli à la croix. Silence, tais-toi. Et ça, c'est la foi. Ça, c'est un langage de foi. D'accord ? On verra tout à l'heure que l'espérance, c'est bien, mais c'est un mendiant comparé à la foi qui, elle, est un guerrier, qui se saisit des choses que Dieu a déjà accomplies à la croix. Et donc, parlez comme ça à vos circonstances. Dites à vos circonstances, silence, tais-toi, vous n'allez avoir aucune influence dans ma vie. Et non, comme disait Marc la semaine dernière, cette réalité qui veut m'être imposée est contradictoire avec la vérité de la parole de Dieu. Et c'est la vérité de la parole de Dieu que je choisis de croire. Et pas cette réalité de la maladie, pas cette réalité du manque. Non, c'est la vérité des promesses de Dieu que je choisis de croire. Et je m'en saisis par la foi. Et la foi doit être visible. Et une fois que la foi est visible, on va voir, une fois que notre foi est visible, on va voir les choses invisibles, des promesses de Dieu, du royaume de Dieu, commencer à se manifester dans votre vie. Si vous devez dire à quelqu'un que vous avez la foi parce qu'il ne peut pas le voir dans votre vie, il y a un problème. La foi se voit. La foi se voit par notre quotidien. Et si demain on vous disait, Jésus, c'était juste une grosse blague, non, il n'a jamais existé. Qu'est-ce qui changerait dans votre vie ? Est-ce que votre quotidien changerait ? C'est une grosse question à se poser. Il faut tout miser sur sa foi. Il faut tout miser sur ce qu'on croit. Moi, je mise tout sur ma foi en Jésus-Christ. Et si demain, il s'avérait que ce soit juste une grosse farce, eh ben, ma vie serait complètement bouleversée, serait complètement transformée, elle ne serait jamais plus la même. Quelle serait notre vie si ce sur quoi on base notre foi, finalement, était une grosse farce. Il faut se poser la question. Et on va voir Là, j'ai 2 verres d'eau, bientôt. J'aimerais bien 2 volontaires qui ont soif, sur 2 chaises, là, peu importe où, si vous pouvez. Quelqu'un qui a soif. Guy a soif. Quelqu'un d'autre qui a soif. Non, c'est bon, t'inquiète. Vas-y, alors tu peux t'asseoir là, vous pouvez vous asseoir sur les 2 chaises de libre qu'il y a là. Voilà. Et donc vous êtes tous les 2 chrétiens, comme normalement tout le monde qui est dans cette salle aujourd'hui. Et moi je suis Dieu, parce que j'ai le micro donc je choisis mon rôle de manière avantageuse. Et donc vous êtes tous les 2 chrétiens. Et donc Guy, toi vous avez tous les 2 soif de quelque chose de plus, d'accord ? Vous avez tous les 2 un besoin à remplir. Et donc toi Guy, tu pries pour que ce verre d'eau que tu convoites arrive dans ta vie. Donc vas-y, tu peux faire semblant de prier, de dire Seigneur merci, apporte-moi ce dont j'ai besoin, voilà, de prier, etc. Toi, tu as lu ta parole et tu as vu que ce verre d'eau, je l'avais déjà pourvu. Que je l'avais déjà déversé dans ta vie, que je te le donne avec plaisir, que je te le donne avec amour même, d'accord ? Et je suis venu jusqu'à toi pour remplir ton besoin, pour répondre à ton besoin. Et ce verre d'eau, je te le donne. Et toi, par la foi, tu le prends. Voilà. Et qui c'est qui a le verre d'eau ? Est-ce que c'est celui qui prie et qui attend ? Ah non, mais d'ailleurs, attends, parce que mon exemple était mieux. Tu vas venir te lever et prendre le verre. Donc, quand il est dit dans Jacques que la foi sans les œuvres est morte, c'est ça. C'est que peut-être Guy, il a l'impression d'avoir la foi, etc. Mais s'il ne se lève pas pour venir chercher ce que j'ai pourvu pour lui, c'est que sa foi est morte, d'accord ? Et elle, sa foi est vivante parce que, et on peut le voir par les œuvres, elle a dit « Oui Seigneur, je crois que tu as pourvu à mes besoins. » Elle s'est levée, elle a attrapé le verre d'eau, d'accord ? Elle n'a pas attendu d'avoir le verre d'eau. Mais non seulement, c'est la beauté de la foi, c'est ce qui fait toute la différence. Mais non seulement je lui donne le verre d'eau dont elle a besoin, mais je lui donne aussi le verre d'eau dont Guy a besoin. Et je lui dis maintenant, tu es ministre de la réconciliation, va annoncer aux hommes que j'ai répondu à leurs besoins, qu'ils sont réconciliés avec moi. Tu peux répondre à leurs besoins, vas-y, va servir l'humanité. Et donc elle va voir Guy et elle lui explique qui est Dieu. Et elle, maintenant, on a l'autorité de répondre aux besoins des gens. On a l'autorité, on a ce qu'il nous faut en nous. Dieu ne répond pas seulement à nos besoins. Dieu ne nous bénit pas seulement pour que nos besoins soient comblés. Il nous bénit aussi pour qu'on soit une bénédiction, pour qu'on soit une source de salut, pour qu'on soit une source de guérison, une source de lumière pour ceux qui nous entourent. Ce n'est pas uniquement pour nous, c'est aussi pour ceux qui nous entourent. Et il nous a donné tout ce dont on a besoin en nous. Il nous a donné tout ce qu'il nous faut pour répondre à sa volonté. D'accord ? Et pour aider les autres. Et ce n'est pas magnifique de pouvoir voir quelqu'un qui est dans le besoin, qui a un problème, je sais pas, qui a besoin de guérison, qui a besoin d'espoir, qui a besoin qu'on lui apporte la paix de l'évangile. Ce n'est pas magnifique de pouvoir lui apporter à cette personne, que Jésus nous ait fait confiance avec un tel message, qu'il soit aussi puissant. Et donc les amis, je vous encourage vraiment à vous lever pour attraper ce dont vous avez besoin, à vous lever, à avancer et à vous saisir ce que Dieu a déjà pourvu. Pour vous. Donc, ah mince, j'avais déjà tourné ma page. Donc, on va voir. Donc voilà, les œuvres sont le fruit du salut. C'est pas la racine du salut. Le salut ne vient pas des œuvres. C'est les œuvres qui viennent du salut. D'accord ? Si vous comprenez que vous êtes sauvé, votre vie va être complètement transformée. Mais s'il n'y a pas de fruit dans votre vie, si les fruits ne sont pas là, mais je dis, mais alors il y a un problème. Il y a quelque chose qui ne va pas dans votre marche avec Dieu. Si les fruits ne sont pas présents dans votre vie, si les œuvres ne sont pas... Et c'est ça que Jacques dit quand il dit « La foi sans les œuvres est morte ». C'est-à-dire si vous ne vous levez pas pour saisir ce que Dieu a accompli, a pourvu pour vous, c'est-à-dire que vous ne croyez pas qu'il a pourvu pour vous. Si vous priez pour quelqu'un et que vous dites « Oh purée, j'espère que ça a marché, Seigneur, merci. » Et Dieu répond à ces prières aussi. D'accord ? On a vu des miracles, des gens qui ne voulaient même pas être guéris, qui se sont avancés et qui ont été guéris. D'accord ? Mais si vous avancez juste, voilà, Seigneur, j'espère que je vais être guéri, Seigneur, etc., bah, c'est agir sans la foi. Donc voilà, et si vous vous avancez avec foi, c'est parce que vous savez que vous allez être sauvé et que vous savez que Dieu a pourvu. D'accord ? On est sauvé par la grâce, par le moyen de la foi. C'est-à-dire que la grâce a mis une table. La grâce a dressé un banquet qui est ouvert à tous. D'accord ? Et ce banquet, c'est celui du salut. Tout le monde est invité à y manger. Tout le monde est invité à la table du maître. Tout le monde est invité à communier, à avoir ce repas, à avoir cette relation avec le maître de la vie. Tout le monde est invité. D'accord ? Ça, c'est la grâce. Et la foi mange à cette table. D'accord ? La foi se lève et dit « Oui, moi, j'accepte l'invitation et je vais manger à la table que Dieu a préparée pour moi. » Une foi visible, qu'est-ce que c'est ? On va voir dans Marc, chapitre 2, versets 1 à 5 et 11 à 12. Donc, quelques jours plus tard, Jésus se rendit de nouveau à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Une foule s'y rassembla si nombreuse qu'il ne restait plus de place, pas même devant la porte, et Jésus leur annonçait le message de Dieu. On lui amena un paralysé porté par quatre hommes, mais ils ne purent pas le transporter jusqu'à Jésus à cause de la foule. Alors, ils montèrent sur le toit en terrasse, défirent la toiture de la maison au-dessus de l'endroit où se trouvait Jésus, et par cette ouverture firent glisser le brancard sur lequel le paralysé était couché. Lorsqu'il vit quelle foi ces hommes avaient en lui, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés se sont pardonnés. » C'est énorme, parce que qu'est-ce qu'il est dit ? Lorsqu'il vit leur foi. Est-ce que Jésus peut voir votre foi ? Vous savez comment il a vu votre foi ? Parce qu'ils ont fait un trou dans le toit. Parce qu'ils n'ont pas abandonné. Parce qu'ils n'ont pas abandonné devant l'adversité. Ils ne se sont pas dit, non, il y a trop de monde dans cette maison, c'est impossible. Non, ils ont contourné, ils se sont foutus de la honte qui pouvait être attachée à ça, même du délit du propriétaire de la maison qui voit un trou se faire dans son toit. Non, peu importe, vous savez quoi ? Ils n'espéraient pas que leur ami allait être guéri. Ils savaient qu'il allait être guéri. Et c'est ça la foi. Et c'est ça la foi. La foi est visible. La foi va faire un trou dans le toit où Jésus se trouve. La foi va monter sur un toit à quatre avec un brancard, avec un malade, et va faire un trou dans le toit où Jésus se trouve. Et c'est cette foi-là qui est récompensée. Et on voit au verset 11 et 12 la récompense de leur foi. Alors il déclara au paralysé, « Je te l'ordonne, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. » Aussitôt cet homme se leva, prit son brancard et sortit devant tout le monde. Donc aussitôt, on voit que la réponse à la prière a été immédiate. La foi n'abandonne pas. D'accord ? La foi va au-delà. La foi voit l'invisible. Ils ont vu leur ami guéri. Et c'est comme ça qu'ils ont obtenu la réponse à la prière. C'est comme ça qu'eux ont obtenu un miracle. On va voir, donc, une question. Est-ce que Jésus peut-il voir votre foi ? Est-ce qu'il peut voir votre foi dans votre vie ? Donc, on va voir la différence entre des gens qui ont la foi et des gens qui ne l'ont pas. Ça, c'est dans Hébreux 11, verset 29. Hébreux 11, verset 29 nous dit « Par la foi, les Israélites ont traversé la mer Rouge comme une terre sèche, alors que les Égyptiens qui ont essayé d'en faire autant ont été engloutis. » qu'est-ce qui est le facteur changeant là qu'est-ce qui change entre les Israélites qui traversent la mer Rouge et les Égyptiens qui essayent de traverser la mer Rouge ? C'est la foi. C'est la foi. Le seul ingrédient qu'ils avaient, les Israélites, c'était la foi. Et ce n'était même pas leur foi. Rappelez-vous, c'était la foi de Moïse, j'ai failli dire d'Abraham. C'était par la foi de Moïse, d'accord ? Et nous, on a la foi de Jésus. On peut le suivre parce qu'il a la foi pour nous aussi. Et on peut traverser la mer Rouge parce qu'on a foi en lui. Même si on n'arrive pas à avoir la foi pour tout, on a la foi en lui. Et il va nous guider. Et il va accomplir les miracles qu'on veut voir dans notre vie. Et la foi, elle le suit. Elle suit Jésus au milieu d'une mer qui s'est levée et des murs qui font des dizaines de mètres de hauteur. Elle suit la foi, d'accord, dans des situations qui peut-être pourraient nous faire peur. Les Égyptiens qui n'avaient pas la foi ont été engloutis et sont morts dans la mer Rouge. D'accord, donc encore une fois, je reviens sur la phrase que j'ai dit au début, l'espoir. Oui, j'espère que je vais être guéri, j'espère que la volonté de Dieu va s'accomplir dans ma vie. L'espoir, c'est un mendiant. La foi, c'est un guerrier. La foi, c'est que Jésus a tout accompli à la croix, et la foi s'en saisit. Oui, Jésus a un plan pour ma vie. Alors oui, je vais faire des choses concrètes pour voir ce plan s'accomplir dans ma vie. Oui, je vais prendre des décisions qui vont à l'encontre même de tout ce que mes proches me disent peut-être. Oui, je vais décider de faire des pas de la foi. d'accord, et d'avancer dans le vide. Et là, je vois que Jésus avait déjà préparé un chemin, qu'il a tout préparé. Donc, une conclusion rapide, c'est que la foi, notamment, nous sert à prouver au monde que notre Dieu est vivant. La foi, ça va nous permettre d'aller voir. Hier, on était à Marseille dans la rue, et j'insistais pour que les gens souvent disent, bah non, mais priez pour la paix dans le monde, priez pour qu'il y ait la pluie à Marseille, priez, ou alors non, tout va bien dans ma vie. Et non, mais je demandais, mais non, dites-moi un besoin spécifique de votre vie, quelque chose que vous voulez voir se réaliser, quelque chose que vous ne pouvez pas faire par vos propres forces, parce que en priant pour ça, je vais vous prouver que mon Dieu est vivant. Et après, vous allez pouvoir le constater par vous-même, parce qu'il y a le témoignage, mais à notre témoignage, Dieu ajoute le sien. Et c'est quoi le témoignage de Dieu? C'est les miracles. C'est les miracles, c'est le surnaturel, c'est les choses que les gens ne peuvent pas expliquer, les choses avec lesquelles les gens ne peuvent pas argumenter. Les gens, on a argumenté, mais des fois 2 heures avec des gens qui j'ai l'impression qu'ils n'avaient rien compris. On leur a présenté l'évangile de manière claire, etc. Mais si Dieu ajoute son témoignage, ça fait toute la différence. Votre foi, notamment, va vous servir à prouver au monde que notre Dieu est vivant, que notre Dieu est le Dieu vivant, que notre Dieu est celui qui fait toute la différence. Et si on parle le même langage que Dieu, c'est là qu'on va pouvoir collaborer avec lui. Si vous avez un collègue chinois et que vous ne comprenez rien à ce qu'il dit, la collaboration va être très dure. Mais si on parle la foi, et ben là, on va pouvoir, notre collaboration va être facile, va être aisée. Et le parler en langue, notamment, c'est un langage de la foi. On ne le comprend même pas. On ne comprend même pas ce qu'on dit. Et si on parle en langue, c'est qu'on a un minimum de foi. Parce que sinon, c'est de la folie. On ne comprend même pas ce qu'on dit. Donc, je vous encourage vraiment à parler en langue tous les jours de votre vie. C'est le langage de la foi. C'est la prière parfaite. Et je veux finir par 2 phrases qui sont très importantes, vraiment primordiales et centrales. C'est que seul Jésus peut sauver le monde, mais Jésus seul ne pourra pas le faire. Il a besoin de vous, les amis, il a besoin que vous mettiez votre foi en action, il a besoin que vous avanciez pour que les signes et les miracles puissent vous suivre. Donc seul Jésus peut sauver le monde, mais Jésus seul ne pourra pas le faire. Il a besoin de vous pour peupler son royaume, pour vider le royaume des ténèbres et pour remplir celui de la lumière. Vous devez parler d'amour, vous devez parler de paix autour de vous et vous devez prononcer le nom de Jésus parce que c'est la lumière dans les ténèbres. Vous êtes la lumière dans les ténèbres, vous êtes appelé à être la lumière dans les ténèbres, mais est-ce que vous le croyez? Et la dernière phrase que je veux dire, parce que j'ai un petit peu débordé, arrêtez d'essayer d'être comme Jésus. Arrêtez d'essayer d'être comme Jésus parce que vous êtes comme Jésus, parce que vous avez sa nature en lui. Vous êtes déjà comme lui. Et de cette position de repos, de cette position d'assurance, oui, je suis comme Jésus, eh bien, j'avance et je dis, oui, les gens vont voir Jésus en moi. Oui, les gens ne vont pas me voir. Les gens vont pas voir mes défauts, ma personne et même mes qualités. Non, les gens vont voir Jésus en moi. Ils vont voir son amour inconditionnel. Ils vont voir son amour qui change tout. Arrêtez d'être comme Jésus. Si vous êtes sauvés, vous êtes déjà comme Jésus. Vous avez reçu sa nature en lui. Amen. Donc, bon dimanche. Et voilà. Vraiment, je vous encourage à vous lever pour se saisir de ce verre d'eau que Dieu a pourvu. Dieu a pourvu à tous vos besoins, déjà. Soyez bénis. Merci.
Merci, Martin, d'avoir relevé le défi.